Vous êtes branchés sur la fréquence 9¾.
Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9¾. Je suis Marina.
Et je suis Jérémy.
Après les incidents à la Coupe du Monde de Quidditch, les Weasley doivent vite rentrer. D'autant qu'une tonne de travail attend Arthur et Percy au ministère pour essayer de minimiser les dégâts.
Après, pour nous, ça fait une bonne excuse pour retourner rapidement au terrier. Et on ne dit jamais non parce que, un peu comme Poudlard, c'est toujours un lieu chaleureux qu'on est heureux de retrouver. Et en plus, on se retrouve au terrier en bonne compagnie puisqu'on sera accompagné, Marina et moi, sur cet épisode d'un nouvel invité.
Il est le sorcier derrière la chaîne YouTube dont on pourra doute. C'est dur, hein, ce que t'as prévu. Quand je l'ai lu, je me suis dit, est-ce que je vais le dire en une traite ou pas? Il est le sorcier derrière la chaîne YouTube dont on ne doit pas prononcer le nom, ou plutôt si, en fait. On est ravis d'être accompagné de, vous savez qui, de son vrai nom, enfin de son nom moldu, plutôt, Brian. Salut Brian, oui. Comment tu
Salut.
Vas
Salut. Salut tous les deux, je vais très bien, je suis très content d'enfin pouvoir vous retrouver depuis le temps qu'on en parle. Très content d'être sur la fréquence 9¾ et vous en faites pas, hein, vous savez qui gentil. Tout va bien, tout va bien.
Bah ouais, c'est un plaisir partagé, on aime beaucoup ta chaîne YouTube. On avait reçu Félix Félicis il n'y a pas très longtemps, donc c'est toujours un plaisir de recevoir des amis YouTubeurs. On n'est pas vraiment YouTubeurs nous-mêmes, hein, on est podcasteurs.
On va dire des créateurs Harry Potter.
Ah, on est sur YouTube quand même, on a une chaîne YouTube.
Bah oui.
Vous pouvez nous écouter sur YouTube.
Et on fait presque de l'ombre à Brian, hein. Attention, au niveau des vues.
Mais je tremble.
Ah oui, tu trembles, hein. Attention.
Ah non, mais oui, vous êtes sur YouTube. Et ça nous fait du bien de vous avoir avec nous quand même.
Alors, même si en vrai, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Brian et sa chaîne, vous savez qui, on est quand même très loin parce que ta chaîne, vous savez qui, Brian, c'est quand même 200 000 abonnés aujourd'hui, 165 vidéos. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de contenu. Il y a une grosse communauté qui te suit derrière. Donc voilà, c'est pour ça, ça nous fait plaisir de t'avoir. Et je suis sûr qu'on va passer un bon moment. Et surtout, maintenant, c'est la tradition. Après qu'on, après l'enregistrement de cet épisode, on parlera un petit peu plus de ta chaîne et aussi du YouTube Harry Potter de façon générale dans l'after show qui sera disponible pour les Patreons. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre notre page Patreon pour avoir accès à ce contenu exclusif là.
Et voilà. Pour ceux qui pourraient pas écouter l'after show, on mettra en description le lien vers la chaîne de Brian, bien évidemment,
et ses réseaux sociaux.
Parce que bien sûr, il a besoin de pub de notre part.
Il a besoin d'énormément
de pubs. Bien sûr, que 200 000 abonnés, enfin.
Donnez-lui de la force.
T'es à la traîne dans les créateurs HP.
Je voudrais remercier Jérémy Marina de mettre un peu en avant des petits youtubeurs comme ça qui galèrent un petit peu.
Mais c'est ça.
C'est un peu de la charité qu'on fait, on avoue. Bon, en tout cas, merci Brian de nous accompagner. Et puis, on vous propose de commencer dès maintenant pour se mettre un peu dans l'ambiance. On est au petit matin, toujours au camping de la Coupe du Monde de Quidditch. Et je crois qu'il est l'heure pour nos personnages de se lever et on part les rejoindre tout de suite.
Harry Potter et la Coupe de Feu.
Chapitre 10. Tempête au ministère.
Après seulement quelques heures de repos, les Weasley, Harry et Hermione plient leurs affaires aussi vite que la magie peut le faire. Sur le chemin de la sortie du camping, ils croisent Monsieur Robert, le pauvre directeur moldu du camping, qui a subi un sortilège d'amnésie après l'attaque des Mangemorts. Il semble que cette mésaventure ait laissé quelques séquelles, puisqu'en les voyant, le pauvre moldu leur murmure un joyeux Noël avec un regard hébété. Alors on peut se demander si c'est le dernier sortilège d'amnésie qui l'a hébété ou si c'est les dizaines de sortilèges d'amnésie qu'il a subis par jour lors de la Coupe du Monde parce que les sorciers n'étaient pas très discrets avec leur magie.
Pas vraiment, non.
Mais c'est horrible d'infliger ça à un moldu quand même.
C'est une question qui se pose, hein. Jusqu'où on peut aller pour les sorciers, pour modifier la mémoire, tout ça, c'est quand même un thème hyper important. Et qui n'est pas si souvent discuté, comme l'a dit Marina, le pauvre Monsieur Roberts. Bon, techniquement, c'est peut-être mieux qu'il ait oublié cette horrible nuit, mais c'est très complexe. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bah, en fait, j'ai toujours pensé que la modification de la mémoire, c'était quand même ultra chaud, et pourtant, ça fait pas partie des sortilèges impardonnables.
Non.
Ça a l'air ok dans le monde de la magie. Sauf que, bah, toucher à la mémoire de quelqu'un, c'est quand même toucher à son intimité. Enfin, c'est l'histoire de quelqu'un.
Ça laisse des séquelles psychologiques.
Ouais, touches pas la mémoire de quelqu'un. Et là, pour le coup, ce moldu-là, il a rien demandé. Et il se trouve qu'il est le propriétaire du camping qui a été utilisé par les sorciers. Mais on en a déjà parlé je crois dans le chapitre d'avant ou encore celui d'avant, c'est abusé de la part des sorciers vraiment de venir envahir des modus, ouais. Alors que je suis sûr qu'ils ont d'autres solutions à portée de main. Mais c'est vrai que moi je trouve ça violent en fait, juste je sais pas, d'attaquer autant la mémoire de quelqu'un et d'un moldu sans défense, quoi. Je sais pas.
C'est mon avis. C'est ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et c'est vraiment la solution de facilité un petit peu qu'il y a dans le monde des sorciers, tu vois. Dès qu'il y a un moindre accident, on va l'oublier. Il se pose même plus la question. Et c'est vrai que j'avais pas pensé, Jérémy, effectivement, ils auraient peut-être pu trouver autre chose que vraiment ramener toute la population magique du monde dans un campement moldu. Il n'y avait peut-être pas un Patrick Chirac moldu. Un camping des flots bleus sorciers qui aurait pu les accueillir. Non. Pauvre monsieur Robert.
Oh, j'ai une image dans la tête. Patrick Chirac sorcier. Il y en a forcément un. Ouais, un Patrick Chirac sorcier.
Mais du coup, on peut poser...
Les beaufs sorciers.
Ouais, c'est ça.
La réflexion plus loin, est-ce que du coup, il y a certains moldus qui se retrouvent en hôpital psychiatrique suite à des sortilèges d'amnésie trop poussés?
Je pense que Monsieur Roberts, il fait un petit tour à...
Un petit burn-out
Non, il fait un petit tour à Sainte-Mangouste, je pense, après. Parce que en vrai, sur ces blessures-là, il y a que les sorciers qui peuvent soigner, en fait. Donc,
Bah non, mais finalement, tu finis en HP parce que les moldus comprennent pas ce qu'il t'arrive psychologiquement, en fait.
Ouais. C'est ça, parce qu'on voit clairement que bon, il a plus la lumière à tous les étages après ça, quoi. Est-ce qu'il y a des répercussions aussi graves? C'est intéressant, ouais.
Ouais. Encore une fois, ça demande une fanfiction, tout ça.
Ouais.
Tout ce qui se passe dans la vie de Monsieur Roberts après ça. Toute la déchéance.
Un after show bientôt.
De cet homme, de cette victime collatérale.
En tout cas, Arthur Weasley n'est pas le seul à avoir eu l'idée de partir le plus tôt possible du camping, parce qu'en approchant du lieu où se trouve le porte-au-loin, il trouve Basil, le responsable des transports, entouré d'une foule de sorciers paniqués qui cherchent à partir le plus rapidement possible. Après quelques mots échangés avec Basil, ils rejoignent la file d'attente afin qu'un vieux pneu usé les ramène à la colline de Tetafouine avant le lever du soleil. Le trajet à pied jusqu'au terrier se fait dans un silence des plus complets, les événements de la nuit plus la faim à raison d'eux. À l'approche du terrier, des cris se font entendre. Madame Weasley les accueille, les traits tirés, tenant l'exemplaire du jour de la Gazette du Sorcier, qui tombe de ses mains lorsqu'elle saute au cou de son mari. Cela permet de voir à Harry le titre du jour « Scène de terreur lors de la Coupe du Monde de Quidditch ». En illustration, une photo en noir et blanc de la marque des ténèbres qui scintillait au-dessus des arbres. Pas étonnant que la pauvre Madame Weasley se soit imaginé le pire des scénarios. Elle qui en plus avait disputé ses jumeaux avant qu'ils ne partent à propos de leur étude. Du coup, elle avait culpabilisé toute la nuit, craignant que ce soit la dernière chose qu'elle leur ait dite.
Wow.
Pour remédier à ça, elle les serre avec tellement de force que leur tête se cogne.
Moi, perso, c'est un truc que je me demande des fois. Enfin, j'y pense, en fait. C'est-à-dire, par exemple, si tu t'embrouilles à quelqu'un, tu dis, bah ouais, mais s'il se passe un truc, j'ai pas envie que ça se termine sur les derniers mots que j'ai dit à la personne. J'y pense des fois, en vrai.
C'est un passage terriblement humain, je trouve, hein, le côté Molly qui les engueule depuis des mois pour leurs études et qui, d'un coup, a peur de les perdre. Elle se dit, la dernière fois, ah, c'est tellement émouvant, ce passage, je trouve, tellement humain. Et on se l'est tous déjà dit, pas partir fâché, même avec les gens qu'on aime, même quand c'est dur. Je trouve que c'est un moment vraiment très mignon.
Pas partir fâché ou, par exemple, avoir peur. Mince, la dernière chose que je lui ai demandé, c'est s'il pouvait aller chercher du papier toilette ou du pain, quoi. Je ne sais pas si je t'aime ou quelque chose comme ça.
À partir de maintenant, on lâche tous une réplique culte à la Dumbledore dès que quelqu'un s'en va de la pièce. Donc, attention.
Ouais, puis il y a quelque chose, mais c'est surtout dans l'Ordre du Phénix qu'on va le voir, ça, même si on a les prémices dans la Coupe de Feu. Mais c'est un peu le retour de Voldemort va provoquer, comment dire, le retour de la psychose du monde des sorciers. Et en fait, ouais. Là, depuis des années, en fait, la vie normale a repris le dessus. Et par exemple, voilà, ces petites embrouilles entre la maman Weasley et ses enfants qui font pas ce qu'ils veulent qu'elle fasse. Et au final, voilà, ce genre d'incident à la Coupe du Monde de Quidditch, ça vient rappeler les heures sombres en fait du monde de la magie, et en fait ça vient remettre en perspective les petites galères, les petits problèmes du quotidien en fait qui ne sont rien parce que
ça rappelle la pandémie, ça
un peu, ouais,
finalement la remise en perspective,
ouais c'est ça, ouais, le retour un peu à ce qui est essentiel à la base, quoi, et qu'on a tendance à oublier parce que quand on est dans notre quotidien et que en soi il y a pas de problèmes fondamentaux, t'as tes petites galères du quotidien, mais quand ça devient quand la vie te fait une vraie crasse, c'est là où tu mets les choses en perspective, et forcément c'est pas la même chose, quoi, c'est
exactement
ouais.
Finalement et plus, c'est pas grave.
L'excuse est... Et puis on oublie aussi souvent que Molly a perdu deux frères dans la guerre précédente, donc elle connaît peut-être mieux que Harry. C'est un petit cas à part, lui il a eu sa dose, mais elle connaît vraiment le fait de perdre des gens à cause des mange-morts de la guerre, tout ça. Donc est-ce qu'elle est pas plus à même à être paniquée au moindre moment, surtout que les sorciers ne connaissent pas les SMS, donc il a vraiment Arthur, c'est pas grave, votre mère elle le sait. Non, donc, elle a dû passer une sacrée nuit. Hein.
Mais c'est ça le truc aussi. J'ai pensé à ça. C'est la magie laisse, élargit le champ des possibilités. Et pourtant, Arthur n'est pas capable de rassurer sa femme après une nuit de terreur.
Il l'aurait pu.
Problème.
Ouais, c'est fou. Il y a 10 000 solutions, je pense.
Ouais, il aurait pu le faire. On sait qu'avec les Patronus, ils peuvent communiquer, par exemple.
J'avais pensé à ça.
Ouais, excellente idée.
Je pense qu'il aurait pu l'envoyer. Alors, même si ils n'ont pas la technologie Moldu, qui en plus, là, on est en 94, donc même nous, les Moldus, on n'était pas tout à fait... on communiquait pas comme maintenant. Mais les sorciers, ils ont quand même des moyens de communiquer. C'est vrai je pense, de la part d'Arthur, je pense qu'il n'y a juste pas pensé, en fait. Je pense que comme il est moins d'humeur à s'inquiéter que sa femme, que Molly,
il
n'y a pas pensé.
Il y a quand même des morts et tout.
Ouais.
Marque des ténèbres.
Et puis personne n'y a pensé parce que il y a toute la famille là-bas. Hein. Basiquement, il n'y a que elle qui est restée. Hein.
Oui, donc, et c'est ça qui est terrifiant d'autant plus. C'est finalement, elle était la seule à être restée.
Ouais.
Toute la famille aurait pu mourir dans cet incident, quoi.
Ouais.
Arthur tente d'apaiser sa femme et réussit à lui arracher ses jumeaux de son étreinte étouffante. Il la ramène au terrier. Discrètement, il demande à son fils Bill de lui ramasser le journal. Une fois tout le monde dans la cuisine, Hermione prépare un thé bien fort à Madame Weasley pour l'apaiser et Arthur insiste pour verser un petit doigt d'Ogden Hall Fire Whiskey.
Oh, tu l'as dit, ça. Je me suis dit, en le lisant, je fais « Est-ce qu'elle va tenter de me citer ?»
Pour l'apaiser encore plus. Monsieur Weasley découvre le contenu de l'article de la Gazette du Sorcier. Rita Skeeter, la journaliste, a écrit un article carrément à charge du ministère, qualifiant même cet événement de désastre pour le pays. Sans citer son nom, elle fait même une allusion à Arthur Weasley en critiquant son intervention après l'apparition de la marque des ténèbres, alors qu'il refusait de donner davantage d'informations, ne permettant pas de dissiper les rumeurs selon lesquelles plusieurs corps avaient été retrouvés dans le bois.
Du grand journalisme, ça.
Ça me fait penser un peu BFM TV ou CNews, quoi, pour pas les citer. Rita Skeeter aurait sa place.
Ouais, c'est un peu...
Oh, bon, oui.
C'est un peu ça, c'est comme il n'y a rien à dire, mais on dit quand même, en fait. Et,
exactement.
Et à parler sans savoir, c'est comme ça que les rumeurs se propagent, se créent.
J'ai hésité à traduire le titre de la Gazette en version chaîne d'info en continu. Non, allez, on va rester dans le politiquement correct.
Ouais.
C'est sûr que désormais, après cet article, les rumeurs vont aller bon train. Arthur Weasley va devoir écourter ses vacances au grand désespoir de Molly. Percy décide d'accompagner son père. Monsieur Croupton aura besoin de tout le monde et comme ça, attention, très important, il pourra remettre son rapport sur les chaudrons en main propre.
Yes. Je suis soulagée.
En plus, Rita Skeeter, elle n'est pas aimée par Percy parce qu'elle avait déjà écrit un article à charge contre le ministère parce qu'elle disait que le ministère était trop occupé à s'occuper des fonds de chaudron qu'à la chasse aux vampires.
Aux vampires.
Vraiment, elle n'en loupe pas une, n'empêche.
C'est resté
pour déceler
un peu
ça,
en travers de la gorge.
Non mais en vrai, toute la communauté magique attend le rapport sur le fond de chaudron, sur le fond des chaudrons, ouais. Avec une impatience démesurée. Hein. Faut le dire.
Moi, je ne vis que pour ça depuis. Ouais. Mais j'adore Percy sur ce passage qui vraiment, c'est, je sais pas si c'est mignon ou si c'est juste arrogant, mais qui veut absolument prouver sa valeur et même si le plus pire des travails, il va te le faire à fond. Et bon. Il est casse-pied, mais là, je trouve ça un peu mignon, qui vraiment en mode « on a besoin de moi, je serai là ». Bon.
Ça, c'est vrai que c'est infidèle. Mais après...
Bah, infidèle, mais envers... ça dépend. Mystère, parce qu'il va critiquer son père plus tard dans le chapitre.
Ouais. Oui, justement, il y a un passage après où... Je crois c'est dans ma partie, je crois. Mmh. Où on pourra s'arrêter, parce que je pense que c'est un prémisse de ce qui va arriver ensuite avec Percy. Ouais.
Ah bah oui.
Malgré la situation tendue, Harry demande à Molly si Edwige a apporté une lettre. Mais à sa grande déception, sa chouette n'est pas revenue. La question met la puce à l'oreille de Ron et Hermione.
Je vois très bien le regard de Ron et Hermione. De quoi il parle, lui? Harry, tu nous as caché quelque chose?
Comme d'hab. Ouais. Sous prétexte de ranger ses affaires dans la chambre de Ron, Harry trouve une échappatoire suivie de ses amis. Une fois la porte du grenier fermée derrière eux, Harry leur raconte que dimanche matin, sa cicatrice lui a fait mal lors de son réveil. Et il connaît parfaitement ses amis, puisqu'ils réagissent exactement comme il l'a imaginé.
Ouais, c'est drôle, ça.
Hermione énumère tout de suite ses sources littéraires, et Ron, on imagine bien sa tête, est complètement abasourdi et tente de se rassurer en se disant que ce n'est qu'un cauchemar. Harry trouve ça quand même bizarre le timing entre la douleur à sa cicatrice et l'apparition des mange-morts et de la marque de Voldemort durant la Coupe du Monde. Et puis, il y a eu la prémonition du professeur Trelawney à la fin de leur troisième année, qui a prédit que vous savez qui.
Attends, lequel? Je suis perdu.
Allez revenir plus puissant et plus terrible que jamais.
Ah si, là c'est moi, je veux bien.
Ah mais pour les Trelawney, elle a surtout dit « ça se passera ce soir ». C'est ça qu'elle a dit.
Voilà.
Hermione est choquée qu'Harry puisse donner de l'importance à cette prédiction. En effet, on se rappelle qu'Hermione a un désamour le plus complet pour la divination. Alors je sais pas... si elle a plus de haine envers la matière de divination ou envers le professeur Trelawney.
Ou envers le fait qu'elle ne comprenne pas, tu vois.
Que ça lui échappe.
Est-ce que mais c'est pas le fait qu'une matière, elle n'y arrive pas? Après, ouais, Trelawney, bon, faut se la coltiner aussi, ouais. C'est sûr.
Il faut avoir l'esprit très ouvert, quoi, pour...
Ouais, je pense que de base, Hermione n'est pas faite pour la divination.
Non.
Et Trelawney est un cliché de tout ce qui va pas avec la divination ou de toutes les dérives de la divination, puisque même si elle a un vrai don à la base, en fait, elle est tellement insécure par rapport à son don, justement, à son troisième œil, qu'elle en fait des caisses, en fait. Même si, comme on l'avait déjà dit, il y a toujours cette petite ambiguïté parce qu'elle fait souvent des vraies prémonitions. Vraies, ouais. Donc,
des grosses prédictions, en plus, sur l'avenir du monde des sorciers, finalement.
Après, les vraies... Vraiment, là où elle est bluffante, c'est les passages où, en fait, elle fait des prophéties et elle s'en souvient pas. Bon, la pauvre.
C'est dommage, quoi.
Elle n'en a pas conscience, mais elle est vraiment douée.
C'est ça. Mais on a vu Hermione aussi être assez fermée d'esprit pour les études, hein, surtout à suivre strictement les règles. Et je pense surtout au prince de Sang-Mêlé. Quand Harry ne suit pas les règles et suit le prince de Sang-Mêlé, et que malgré le fait qu'il la batte, entre guillemets, ça l'énerve d'ailleurs, elle ne veut pas déroger à la règle. Et, donc clairement, divination, c'est la pire matière pour Hermione, une matière sans logique, exaspérante comme professeur.
Ouais,
je la comprends un petit peu.
Parce que finalement, elle ne peut pas l'apprendre dans les livres.
Exactement.
C'est ça aussi qui la perturbe.
Et je pense que ce qui l'énerve, c'est que, comme disait Jérémy, c'est un peu tout et n'importe quoi, la divination. C'est, je vais vous dire, demain, il va vous arriver quelque chose d'incroyable. Et si vous arrivez un petit truc sympa demain, vous allez dire « Ah !» Alors que non, pas du tout. Donc vraiment, je pense que la divination, et c'est ça qui était malin à mettre dans le 3, c'est vraiment pas compatible avec quelqu'un comme Hermione. Et c'était bien aussi de l'avoir dans ce « pas parfaite partout » et avec, comme n'importe quel humain, des animosités, des choses comme ça.
Mais c'est cheaté de base quand même la divination, parce que si t'as pas le don, justement si t'es Hermione et en fait t'es pas équipée pour avoir ce don là, si t'as choisi la matière, tu vas te taper que des sales notes, quoi, parce que ça te demande des prédispositions en fait pour y arriver, et Hermione les a pas du tout. Donc en fait je me demande, est-ce qu'on peut apprendre la divination ou est-ce que de base tu as le don ou pas, du coup c'est binaire, donc je sais pas, enfin je me pose cette question.
Bah c'est dur hein. Je pense que tu peux parce que tu vois Harry, Ron, tout ça, ils trouvent ça soporifique, mais je pense que tu peux juste la bluffer et très lounée, elle est pas très regardante.
Oui, par contre ben ouais.
Mais par contre, quand pour un fort caractère comme Hermione, ça passe pas, ça crée des... Je pense que la meilleure chose à faire, c'est juste d'être en mode comme Harry et Ron.
D'inventer des rêves.
Tenter de voir des trucs.
Tenter des choses. Et ça me fait penser à la théorie selon quoi Ron a fait des vraies prédictions et tout. Que tout ce qu'il a dit à Harry, même au hasard, ça s'est vraiment révélé vrai. Ouais. Ça aurait été hilarant que ça soit pour de vrai, mais...
J'aime beaucoup les scènes de Harry et Ron qui créent les pires mythos pour rendre leur devoir de divination. Ça c'est toujours des scènes assez marrantes.
Mais Harry, c'est le cheat code. Tu dis, toi, tu vas mourir la fin de l'année. Hein. c'est bon, va.
À la fin de l'année,
va
t'arriver un truc, mon gars. T'es pas prêt. Oui, parce que c'est ça, Ron et Harry, pour cheater en quelque sorte dans la divination, ils inventent les pires prédictions, en fait, c'est ça. Parce que Trelawney, elle adore mettre du drama dans ses prédictions.
Elle aime le sang.
drama queen.
Drama queen, Trelawney.
Je me demande si c'est pour ça qu'elle n'a pas ce comportement un peu où elle en fait des caisses. Parce que j'ai dit insécure tout à l'heure, mais je pense vraiment qu'elle l'est, en fait. Je pense qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur, et on le voit, hein, elle est extrêmement perturbée par Ombrage. En même temps, c'est dur de pas l'être, mais elle va être affectée plus que d'autres professeurs par Ombrage, parce que je pense qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur de son don, de sa place de professeur de divination. Et puis en plus, on le sait, elle vient d'une grande lignée de...
Oui,
de,
c'est ça, c'est ce voilà. que j'allais dire.
Ah oui,
et je pense que c'est horrible parce qu'elle ne saura jamais qu'elle a peut-être fait les... Enfin, au moins la prophétie la plus importante de ce dernier siècle, voire plus dans le monde de la magie. Et elle le sait pas, en fait, et elle le saura sans doute jamais. Je trouve ça dur parce que faudrait peut-être lui dire, et je pense qu'elle changerait peut-être de comportement. Elle serait peut-être, elle aurait peut-être besoin de moins d'en faire des caisses.
Elle en fera encore plus des caisses.
Ouf, ouais, ça va être
ça va flatter son ego et ça va être pire que jamais.
Ouais, c'est
j'avoue
vrai.
Que c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est un personnage beaucoup plus intéressant qu'on pourrait penser parce que J.K. Rowling l'a décrit aussi comme très solitaire, qui s'enferme dans son bureau, qui sort rarement, alcoolique aussi un petit peu. Ouais, et je pense que ça vient de tout ça, hein, de ce dont tu as parlé, de son héritage, des vrais voyants, entre guillemets, de sa famille et qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur. Après, en fait, ce personnage, c'est toujours ambivalent. Parce que pour Ombrage, par exemple, tu peux aussi te dire qu'elle est consciente d'être bidon et elle a peur d'être découverte par Ombrage, ou effectivement, juste du manque de confiance en soi, de la peur de la tyrannie et tout ça. Donc Trelawney, c'est vraiment un personnage super intéressant et assez mystérieux au final.
Je suis tout à fait d'accord.
En tout cas, malgré la critique d'Hermione, il y avait quand même un lien entre la prédiction de Trelawney et la réalité, puisque lors de sa transe, elle avait dit à Harry que Voldemort allait parvenir à revenir grâce à son serviteur. Et 3 jours plus tard, Cudvers s'est enfui. Donc, coïncidence.
Ouais, c'est une vraie prophétie.
C'est une vraie prophétie.
Pour le coup.
Carrément.
Après un silence, Ron demande à Harry pourquoi il attend le retour d'Edwige. Ce dernier lui explique qu'il a envoyé une lettre à Sirius pour lui raconter l'épisode de sa cicatrice et qu'il espérait qu'il répondrait vite. Hermione le rassure en lui rappelant qu'ils ne savent pas où se cache Sirius. Ça peut être très bien en Afrique. Et donc du coup, la pauvre Edwige, il va lui falloir du temps pour faire le trajet. Harry le sait bien, mais bon, il ne peut pas s'empêcher d'être déçu. Et d'un coup, Ron propose à Harry une partie de Quidditch avec Bill, Charlie, Fred et George. Et en plus, ils pourront bien essayer la feinte de Wronski. Hermione pense qu'il n'est pas raisonnable de jouer au Quidditch maintenant. Et en plus, comme elle le dit, Harry n'a pas envie de jouer au Quidditch.
Il est inquiet, il est fatigué.
Mais au contraire, elle se trompe puisque ce dernier pense que c'est une excellente idée. Décidément, Hermione a souvent du mal à comprendre le fonctionnement d'Harry et de Ron.
C'est un peu le chapitre des sujets que maîtrise pas Hermione.
Ce oui, c'est ça.
La divination
et ses meilleurs amis.
Et le Quidditch. C'est vrai que pareil, hein, le Quidditch, elle n'est pas faite pour ça, quoi.
Et j'ai relevé un truc aussi parce qu'on s'était déjà interrogé. Il propose un match de Quidditch avec ses frères. Mais on s'était dit déjà lors d'un épisode que pourquoi il ne propose pas à Ginny, parce qu'on sait que Ginny adore le Quidditch.
C'est vrai.
C'est toujours entre ses frères et finalement, Ginny, elle n'est jamais incluse dans les matchs de Quidditch.
Je crois que c'est même Hermione qui dira que Ginny, elle piquait les balais de ses frères en douce pour s'entraîner toute seule.
Elle dit quelque chose.
Ouais. Et je crois que c'est Hermione qui dit ça. Parce que je pense que Ginny se confie à Hermione. Elle lui a peut-être déjà dit qu'elle aimerait bien intégrer l'équipe de Quidditch, de Gryffondor, quelque chose comme ça. Et en fait, ouais, je pense qu'il y a un peu de machisme de la part de ses frères, de jamais inclure Ginny dans leur partie de Quidditch. Ouais.
En parlant de machisme, on va voir plus tard dans la saga la réflexion de Ron envers les nombreux petits amis de sa sœur.
Ah oui. Ah, des bons moments qui nous attendent, tout ça.
Ouais.
Je m'en frotte les mains, vous pouvez pas le voir.
Ça va donner des débats assez sympas.
Ah, c'est marrant. Alors, tout au long de la semaine, Arthur et Percy passent l'essentiel de leur temps au ministère pour tenter de réparer les dégâts. Des spectateurs continuent de leur envoyer des beuglantes pour se plaindre de la sécurité. Jusqu'à l'abus, comme pour Mondingus Fletcher, qui a demandé à se faire rembourser une tente luxueuse de 12 pièces, alors qu'il couchait sûrement sous une vieille cape tendue sur des piquets, comme le fait remarquer Percy.
Plus c'est gros, plus ça passe.
C'est certainement le cas. Alors là, on a une petite allusion à Mondingus Fletcher, alors que c'est un personnage qui va prendre de l'importance qu'à partir du tome 5 avec l'Ordre du Phénix. Mais pour autant, j'ai été voir... Et c'est pas la première fois qu'on mentionne Mondingus Fletcher dans les livres. Son nom a déjà été cité une fois auparavant. Est-ce que vous êtes des big boss et vous vous souvenez de la première fois où on cite Mondingus Fletcher?
Alors, à
c'est
quel
pas
moment
Hagrid qui en parle?
Ce n'est pas Hagrid, non.
On va essayer de trouver le tome déjà. Dans le tome 2?
C'est bien dans la chambre de secret, oui.
Ok. Mondingus Fletcher dans le tome 2.
Mais c'est vraiment... Enfin, c'est très dur à resituer si on ne l'a pas en tête ou si on n'a pas lu récemment...
Dans la Légende des Embrumes?
Non. Non, c'est pas dans la Légende des Embrumes. Là, ouais, ça aurait été un passage qu'on... Ouais, ça aurait pu être devinable. Mais là, je me demande si c'est devinable. Je vous le dis.
Parce qu'il est cité directement ou on fait allusion à lui?
Non, on fait allusion à lui, c'est ça. En fait, il n'est pas dans une scène, en fait. On fait allusion à lui.
Mais on le cite ou on fait allusion au personnage?
Son nom est cité.
Ouais,
mais son nom est cité.
Oh, je ne sais pas du tout.
Je vous le dis.
Vas-y.
C'est dans le chapitre 3 du tome 2. Le terrier. D'ailleurs, c'était aussi au terrier. Ah, et en fait, c'est une anecdote d'Arthur Weasley qui raconte que Mondingus a essayé de lui jeter un sort derrière son dos alors qu'il était en train de faire une intervention pour le ministère de la magie.
Voilà. Ah oui. Enfin, vaguement, voilà. Oui.
Okay. Donc c'est aussi au terrier qu'on faisait mention 2 ans auparavant.
Alors là,
Fletcher. Et ouais, c'est là qu'on voit que J.K. Rowling n'a pas juste écrit de façon automatique les livres, mais qu'elle a produit une quantité énorme de brouillons avec tout un univers étendu sur les personnages, les lieux, les différentes situations, etc. Parce que des personnages qui vont avoir de l'importance bien après, ben en fait, ils sont distillés ici et là, ils reviennent de temps en temps. Et là, Mondingus Fletcher, c'est un bon exemple, je trouve.
Ah, je savais pas du tout. J'aime trop ces petits trucs comme ça, comme Sirius qui est dans le chapitre 1 du premier tome et tout.
Ouais, dès le début. Hein. Dès le début. Ça, c'est... Celui-là, il est trop bien. Ce petit clin d'œil.
Non.
Molly s'inquiète en regardant son horloge spéciale parce que la dernière fois qu'Arthur avait eu son aiguille pointée sur au travail durant le week-end, c'était lorsque Voldemort était au pouvoir. Alors, j'aime bien le fait que l'une des options sur l'horloge, ça soit en prison. C'est pas un peu what the fuck, quoi.
J'avoue.
Pourquoi en prison?
Bah, je pense, je me suis posé la question et c'était peut-être au temps de Voldemort.
Peut-être.
Peut-être. Ouais. Ou c'était au temps. Ah bah non, et c'était. Ouais, si.
Vous aimeriez, vous, avoir une horloge du même genre? Je me suis posé la question.
Ah, c'est compliqué.
Oui et non. Parce que oui, ça peut être rassurant.
Ouais.
Non, parce que ça peut être vite. Ça peut vite, vite devenir du stalkage.
Ouais.
Mais je sais pas.
Faudrait, à la limite, moins d'aiguilles et vraiment juste en danger de mort. Et,
oui.
C'est peut-être un peu flippant pour que tu te réveilles. Petit déjeuner, et puis tu vois ton aiguille en danger de mort.
Parce que je suis pas trop en retard, j'ai le temps pour un petit café en danger de mort. Ok, nickel.
Non, en vrai, j'en veux pas de cette horloge. Non, c'est bon, je vous lâche.
Moi, je me suis dit, c'est hyper anxiogène quand même d'avoir ça.
Ouais, ouais.
Et puis, oui, je pense qu'elle date, évidemment, elle était pratique au temps du règne de Voldemort. Mais n'empêche que là, on est combien? 14 ans après? Quasiment 15 ans après, et Molly l'a toujours, l'utilise toujours. Donc, ça dépasse un peu le règne de Voldemort.
Donc, mais justement, elle s'est inquiétée toute la nuit, mais c'est parce que, est-ce que toutes les aiguilles des membres de sa famille étaient sur en danger de mort?
Ah. Ouais. Bah oui, puis je crois que ça va arriver de nouveau, en fait, dès le retour de Voldemort. Et j'ai l'impression, de toute façon, là, par exemple, avec l'allusion de l'horloge, ou même de Molly qui s'est inquiétée au début de ce chapitre, je trouve que c'est un peu un pré-shot de l'Ordre du Phénix, tout ce qui se passe ici. Comme si la menace est là, et en fait, tu sais qu'elle va arriver, quoi, parce qu'on fait allusion à l'horloge, avec les différentes aiguilles en prison, en danger de mort et tout. Molly qui s'inquiète, parce que ça lui a fait repenser, ça lui fait revivre des traumatismes, et puis le fait qu'Arthur il soit obligé de travailler, et en fait ça rappelle quand Voldemort était là. J'ai l'impression qu'on préchote un peu ça, cette ambiance, l'ambiance de danger qu'en fait qui arrivera très bientôt, dans quelques mois.
Je dis peut-être une bêtise, hein, vraiment, mais j'ai l'impression que dans un autre tome il y a cette précision comme quoi toutes les aiguilles des Weasley sont dans le carcan en danger de mort. Juste pour dire, je pense, pour représenter à quel point les Weasley prennent du danger en étant amis avec Harry Potter. Je dis peut-être des bêtises. Si c'est le cas, bah, j'aurais aimé qu'il y ait ce passage dans un des livres. Mais j'ai l'impression qu'il y a une référence comme ça où Harry voit que tous les Weasley sont en danger de mort. Et bon, il va peut-être pas jusqu'à dire que c'est à cause de lui, mais c'est peut-être un petit clin d'œil sur le fait qu'effectivement, tous les Weasley sont tellement braves qu'actuellement, ça doit être dans le 6 ou dans le 7, peut-être. Ils sont tous en... Ah, peut-être avant le mariage, je sais pas.
Ça me dit quelque chose.
Ouais, 100%, on fait allusion. Je crois même qu'il y a peut-être Molly qui dit... Depuis que Voldemort est revenu, les aiguilles n'ont pas changé ou quelque chose comme ça.
Ouais.
Arthur doit transplaner du ministère jusqu'au terrier. Et en fait, il est en danger de mort, il est en route, et puis...
Et soit
l'aiguille... Ah, t'as trouvé ?
Durant la deuxième guerre des sorciers, Molly Weasley transporte avec elle la pendule dans la maison, et toutes les aiguilles sont constamment dirigées vers en danger de mort.
Wow.
Ouais, ouais.
Et c'est dans Tempête au ministère, Flurk.
Bah, Tempête au ministère, on y est. Dans
Flurk, je pense, du coup.
Ouais,
dans le cinquième chapitre de Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé.
Ok, ouais, ouais.
Ça doit être les moments où l'horloge est mentionnée, donc il y a tempête au ministère, ouais. Puisqu'on en parle.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Ok. Bon, moi, je ne me suis pas tapé la fiche.
Non.
Bravo, ouais. Bonne mémoire.
Enfin, ouais. Et je trouve ça assez poignant comme passage, vous voyez, de voir que tous les Weasley sont en danger maintenant parce qu'ils ont clairement. Parce que c'est des sangs purs, il me semble, je ne sais plus. Enfin, c'est une noble famille, entre guillemets. Ils auraient très bien pu passer leur chemin, mais ils se sont impliqués complètement pour la quête de Harry. Donc.
C'est résistants. Bon. Ouais. Percy dit que c'est un peu de la faute de son père, en quelque sorte, parce qu'il a empiré la situation en parlant à la Gazette du Sorcier. Et ça, c'est une critique que Molly prend très mal. Et c'est là où on en faisait allusion tout à l'heure, mais je trouve que c'est un signe avant-coureur ici de la rébellion de Percy, le fait qu'il critique sa famille. Ça montre un peu le chemin qu'il va prendre, malheureusement, très prochainement, quoi.
Ah, clairement, carton rouge là. Ah non. Surtout que là, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté. Clairement, Rita Skeeter est réputée pour dire n'importe quoi. Son père a fait ce qu'il a pu. Donc là, clairement, exactement comme tu dis, on sent que, bon, s'il y a à choisir entre la famille et le ministère, c'est clairement pas Percy qui va choisir immédiatement sa famille. Ah là, j'aime pas.
Ouais, puis je pense que Percy, il se permet à ce moment-là de commencer à se faire ces réflexions-là à voix haute, parce que ça y est, lui aussi, c'est un employé du ministère, lui aussi, il part au travail avec son père, et tout de suite, ouais. il se donne de l'importance, en fait. Mmh. Alors qu'avant, bah du coup, c'était un élève de Poudlard, je pense que même si il devait penser des choses sur ses parents et autres, je pense qu'il est gardé pour lui, et là, tout de suite, comme c'est l'assistant de Monsieur Croupton,
ouais, ça y est... Sauf qu'il vit toujours chez ses parents.
Oui, par contre, ouais,
je pense que maman Molly lui fait toujours son petit-déj et son repas et sa lessive.
Et ouais.
Donc bon.
Et Marina, elle est arrivée, elle l'a calmée tout de suite. Tu te rassois, petit. Hein. Oh. Et chez qui, là?
Ouais, et puis il y a un personnage qui le calme, c'est Bill aussi. C'est son frère.
Ah oui, oh, mais quel plaisir.
Parce qu'il dit de toute façon que, bah, c'est un peu ce que tu disais, Brian, d'ailleurs. Quand Rita, elle a décidé de s'attaquer à quelqu'un, elle parvient toujours à ses fins. Et d'ailleurs, lui, il digère toujours pas qu'elle ait dit de lui, de Bill, qu'il était un bonnet aux cheveux longs dans un article consacré à Gringotts. Mais sur la question des cheveux, il se trouve que Molly, elle est beaucoup moins critique, voire en accord avec Rita Skeeter.
C'est tellement vrai, ça, les mamans qui critiquent la coupe de cheveux. C'est tellement humain. Ce chapitre est hyper humain, je trouve.
Ouais.
C'est criant de vérité.
Mais tous les chapitres au Terrier où il y a la famille, parce qu'il y a plein de personnages, c'est une vie de famille, donc c'est plein de situations presque moldues, en fait.
En fait, les Weasley, c'est un peu la caution famille, cocooning famille, en fait. Chose qu'on n'a pas en dehors de la famille Weasley, en fait.
Justement, là, juste après, c'est expliqué que c'est une journée pluvieuse. Il y a chacun qui va, qui a ses petites occupations. Donc voilà, on a ces petits moments de vie comme ça qui peuvent, auxquels tout le monde peut s'identifier. Et pendant cette journée pluvieuse, il y a Fred et George qui, eux, ils sont un peu dans leur coin, ils chuchotent un parchemin à la main et ça attise la curiosité suspicieuse de Molly. Et pour ne rien arranger, les deux frères expliquent simplement qu'ils font leur devoir. Donc évidemment, Molly, elle y croit pas un mot. Mais Fred et George tournent court en mettant en garde leur mère de dire quelque chose qu'elle pourrait regretter si tous les deux meurent dans la minute qui suit, en gros.
Oh, ils sont horribles.
La répartie qu'ils ont, elle est formidable. Là, je me suis dit, on saura plus tard que ce que Manigance, Fred et Georges, déjà il y a leur boutique, mais il y a aussi et surtout le fait qu'ils ont parié auprès de Ludo Verpé, qu'il les a trompés en fait parce qu'il veut pas leur rendre l'argent qu'ils ont gagné. Et je me suis demandé, c'est normal qu'ils gardent ça secret, surtout auprès de leur mère, mais est-ce qu'ils en ont fait part à leur père? Parce que quelque part, c'est aussi leur père qui les autorise plus ou moins à parier, en fait. Donc, je me demande si on dit à Arthur que Ludo Verpé, il leur rendait pas l'argent et que c'était chaud, quoi. Je sais pas. Je me suis posé cette question.
J'ai pas l'impression, hein. Pourtant, il était au courant. Hein. Non, mais.
Ouais, en fait, il est au courant, il est témoin de ça. Alors, c'est dit, Arthur, il dit, il faut pas du tout que votre mère soit au courant que vous avez parié toutes vos économies. Comme à son habitude, Arthur, voilà, qui dit, ne le dites pas à votre mère. Mais du coup, ce qui leur arrive, je pense que leur. Je sais pas, je me suis demandé si Arthur aurait pas pu les aider un peu. Voilà, c'est une question ouverte. On n'a pas la réponse, c'est évidemment. Au même moment, Arthur rentre enfin. Justement, on parle de lui. La situation au ministère est toujours aussi tendue, d'autant que Rita Skeeter a maintenant découvert la disparition de Bertha Jorkins. Mais bon, au moins, elle ne sait encore rien de l'histoire sur l'elfe de Monsieur Croupton, fort heureusement. Alors, le sujet déclenche une nouvelle dispute entre Hermione et Percy sur la condition des elfes, Hermione insistant sur le fait que Winky est une esclave qui a été maltraitée par son maître. Parce qu'on se souvient, ils s'étaient déjà pris la tête dans la tente la veille au soir. Harry et Ron montent bientôt dans leur chambre et les bruits de la dispute d'en bas se mélangent bientôt au caquettement surexcité de Coq qui les voit arriver. La cage d'Edwige à côté, elle est toujours vide. Et Ron, il tente de rassurer Harry en lui disant que s'il est arrivé quelque chose à Sirius, le ministère, il serait ravi de le faire savoir, donc ça veut dire que tout va bien. D'ailleurs, je crois pas que ça a été mentionné jusqu'alors, mais j'imagine que tout le monde doit être persuadé dans le monde de la magie que c'est Sirius qui est à l'origine des incidents de la Coupe du Monde. C'est un peu l'ennemi numéro 1 dans le précédent tome, donc c'est vrai que là, on n'en parle pas trop, mais je pense que la théorie numéro 1 pour les sorciers, c'est que c'est Sirius Black, non ?
Dans le 5, on sait que le ministère profite pour lui mettre un peu tout sur son dos. Dans le film, c'est sûr, dans le livre, à vérifier. Mais c'est vrai que dans le 4, il perd un... Après, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu en entier, mais il perd peut-être un peu cet aspect ennemi public numéro 1 qu'ont mis Matraque à raison aussi dans Le Prisonnier d'Azkaban. Et c'est possible que tout lui était mis sur le dos, encore une fois. Effectivement, dans la croyance populaire, ils ne savent pas ce qui s'est passé à Poudlard, donc ça doit rester un peu l'ennemi public numéro 1. Et ouais, c'est possible.
J'ai pas exactement en tête tout ce qui va suivre dans la Coupe de Feu. Peut-être qu'on en fait mention après, mais en tout cas, je crois pas qu'on en ait fait mention avant. Par exemple, on le sait, Rita Skeeter, elle pinaille sur les détails de ce qu'a pu dire Arthur. D'ailleurs, il a rien dit. Elle crée des rumeurs par rapport à ça, mais je pense que il y a des gros titres à faire avec Sirius Black derrière les incidents de la Coupe du Monde, mais on n'en fait pas mention. Voilà, je me suis Je me suis posé cette question-là aussi.
Ouais, mais finalement, je pense que c'est aussi vendeur de me faire des articles à charge contre le ministère, je pense.
Elle appuie où là, ça fait le plus mal.
Mmh. C'est ça. Et peut-être aussi, parce qu'on n'a pas tout l'article, peut-être aussi qu'elle vient remettre le couteau dans la plaie, que Sirius Black est toujours introuvable, que ça fait deux fois qu'il s'est échappé. Certainement, en fait, que c'est dans l'article, c'est juste...
Puisque c'est la faute du rapport des chaudrons qui n'a pas été rendu à temps.
Mais j'arrête pas de le dire, moi, on aurait été sauvés. Hein.
C'est la faute de Percy, tout ça.
Arrête, il va pas s'en remettre.
Harry trouve sur son lit ses vêtements propres et repassés, ainsi que toutes ses fournitures scolaires. Merci, Madame Weasley. S'occupait de tout ça pendant que tout le monde faisait la teuf à la Coupe du Monde. J'aime bien quand même le détail de Harry qui entasse ses sous-vêtements dans son chaudron pour fermer sa valise. C'est une anecdote très sorcière, ça, je trouve. Petite astuce de sorcier. Voilà, mettre ses chaussettes dans le chaudron.
Mais en fin de week-end, on a tous déjà trouvé ses vêtements propres sur son lit avec les tupperwares emmenés dans notre appart étudiant pour passer la semaine. C'est un peu ça.
Ça t'a rappelé ça, toi.
Ouais.
Ron pousse une exclamation de dégoût en tenant une longue robe violette faite de velours et de dentelle moisie. Au même moment, Molly rentre et Ron lui dit qu'elle s'est trompée et qu'elle lui a donné une robe de Ginny. Mais sa mère lui répond qu'elle ne s'est pas trompée du tout, cette robe, c'est la sienne, et d'ailleurs, c'est même sa robe de soirée. Et oui, en effet, c'est une nouveauté dans leur liste de fournitures cette année.
Mais ils ont tellement coupé de scène dans le film que finalement, ils ont remis la livraison de la robe de la soirée à Poudlard.
Ouais, c'est à plus tard.
Je me rappelais tellement pas que cette scène avait lieu si tôt dans le récit.
Ouais, pareil.
C'est vraiment une surprise.
Ça fait du sens parce que c'est dans leur liste de fournitures.
Bah, c'est ça.
Oui.
C'est
ça qui est chouette. C'est, ça prépare un peu le terrain aussi à la... Parce que je sais plus du coup si c'était avant ou après, mais il y a tout ce... Il va se passer quelque chose à Poudlard, mais on peut pas vous en parler. Une tenue de bal. Après, bon, pour le film, ils ont choisi un truc un peu plus pratique. Bon, il reçoit de la tenue, une tenue de bal, pourquoi ? La balle de Noël. Là. Donc, c'est chouette aussi. Mais je me rappelais pas du tout que cette scène avait lieu aussitôt dans le récit.
Parce que du coup, dans le film, il n'y a pas tout le teasing de « il va se passer quelque chose à Poudlard
». Pas vraiment, il n'y a pas le temps, en fait. Le film va tellement à mille à l'heure. Il y a pas le temps.
Déconseillé aux épileptiques, hein, ce film. Ça passe tellement d'une scène à l'autre.
Je suis d'accord avec Brian. Moi, j'aime bien la scène aussi dans le film de Ron qui trouve sa robe de soirée. Ça me dérange pas trop ce changement-là.
Oui,
parce que de façon générale, j'aime bien toutes les petites scènes comme ça qui se trouvent dans la grande salle. En fait, j'aime beaucoup ces scènes-là. Donc, ça me dérange pas. Puis avec tout le monde qui se fiche de lui et tout, c'est marrant.
Comme d'hab.
Ouais, comme
c'est vrai que le début du film, il est... Enfin, je me rappelle même, à l'époque au cinéma, avoir dit à mon frère que ça fait 2 minutes de film, on est déjà au chapitre 18, parce que vraiment, c'est...
Ouais, complètement. On l'a déjà dit sur les précédents chapitres de La Coupe de Feu. Moi, personnellement, c'est le film que j'aime le moins. Enfin, je l'aime beaucoup, hein, mais si je devais en choisir un que j'aime le moins, c'est celui-là, justement pour ses défauts d'écriture, parce que je trouve que l'écriture, elle est... le problème, c'est pas de couper des scènes, mais c'est de rendre tout ça naturel, en fait. Et là, pour le coup, c'est vrai que, surtout au début, ça donne un côté zapping, en fait, que c'est juste qu'on essaie d'en caser le plus vite possible, mais on coupe parce qu'on n'a pas le temps. Et
on l'a revu au cinéma l'année dernière.
On l'a revu au cinéma il y a 2 ans, je crois.
Il y a 2 ans.
Ouais.
C'est vrai qu'on avait été choqués du montage, en fait.
Ouais.
Mais est-ce qu'on est choqué du montage lorsqu'on n'a pas lu le livre ?
Peut-être pas. C'est toujours une même question.
Le montage est pas naturel, comme tu dis.
Ouais.
C'est pas smooth, en fait. Il y a pas des belles transitions.
Il y a des problèmes de transition, en fait.
Ouais.
Mais peut-être que quand t'as pas lu le livre, tu t'en rends moins compte. Hein.
Je sais pas. C'est la question que je me pose.
Ouais. Mais en comparaison, je trouve que l'Ordre du Phénix, mais c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est une meilleure adaptation. Parce que pour le coup, le film, il est même plus court, je crois. Alors pourtant que le livre est beaucoup plus épais. Il y a une espèce de... En fait, ça roule tout seul, en fait. C'est-à-dire que c'est très bien écrit, les transitions, la mise en scène, elle est très bien fichue. C'est bien qu'on s'en rend pas compte, ça passe, en fait. Alors peut-être moins pour ceux qui sont vraiment accrochés au livre, mais je pense que ça... passe plus que la...
Est-ce que c'est la même équipe technique,
non.
Le même réalisateur?
Justement, Steve Close, qui a scénarisé tous les films Harry Potter, il les a fait tous sauf le 5. Alors, c'est pas très logique par rapport à ce qu'on dit. Mais peut-être qu'il a eu du mal à adapter la Coupe de Feu, qu'il a eu envie de faire une pause et qu'après, il est revenu pour le 6. Hein. C'est possible.
La Coupe de Feu, je peux comprendre parce que ça marque quand même une différence de rythme entre tous les films, je trouve. Et c'est quand même assez spécial, même dans le livre. Je trouve pas le mot.
Chapitre.
Non, passage. Dans le montage du livre, en quelque sorte. Mmh. Du 1 au 3, on suit quand même assez la même idée, la sorte d'enquête jusqu'à la résolution. Alors que là, je trouve que la coupe de feu, les épreuves, ça casse un peu le rythme habituel, en fait.
Ouais. Bah ouais, c'est... comment dire ? Bon, c'est un peu bête ce que je dis, mais dans ce livre, vraiment, t'as des trucs incontournables et c'était tellement énorme. En fait... Je pense que le côté de tournoi, ça les a tellement... Enfin, tu pouvais vraiment pas louper ça. Mm-mm. Et peut-être que tout le reste, ça a été un peu trop... pas mis assez de soin. On a vu à quel point ils ont mis du soin sur chaque épreuve. Et c'était tellement ça l'enjeu. Ça, Voldemort aussi, tout ça. Il y avait énormément de pression sur ce film au final, hein, le quatrième.
Limite, il aurait fallu deux parties.
Je crois que c'était à une époque. Après, c'était peut-être des fausses rumeurs. Hein. Là, on est en 2005, 2004, je ne sais plus.
Ouh,
mais il me semble qu'il y a eu des rumeurs comme quoi le prochain Harry Potter sera en deux parties. Là. Et c'était peut-être n'importe quoi, mais ils l'ont peut-être, peut-être songé. Mais parce que c'était quand même un sacré morceau. Après, bon, je suis quand même content qu'on soit resté qu'à un film parce que si tu fais deux parties là, tu fais deux parties pour l'Ordre du Phénix.
Oui, c'est vrai, ouais.
Et c'est le gars de 18 000 films et à la fin, Daniel Radcliffe à 40 ans. mais je suis d'accord avec toi, Jérémy, c'est le 5, je comprends. Bon, après, chacun son avis, mais j'ai jamais trop compris les détracteurs à ce point. Je trouve que c'est grossier ce que je dis, mais c'est un très bon résumé du livre.
C'est un très bon résumé.
J'ai jamais... Bon, il y a quelques trucs qui m'ont énervé beaucoup, mais dans le soi, j'ai tout retrouvé que niveau adaptation, c'était un très bon résumé. Oui, il n'y a pas tout, le bouquin fait 1000 pages. Mais j'ai toujours bien aimé cette adaptation, moi, perso.
Ouais, puis quoi qu'on pense de David Yates, je trouve qu'il a apporté du dynamisme, en fait, dans sa mise en scène. Alors, c'est lié à l'écriture aussi, mais par exemple, moi, j'ai des souvenirs en tête de peut-être de dizaines de pages qui sont en fait résumées sur des séquences très courtes de Ombrage qui se promène dans les couloirs avec son petit thème musical, avec une succession de petites scènes. C'est presque de la comédie musicale. Et ça, voilà, c'est le cinéma, forcément, c'est une autre façon de raconter une histoire. Et je trouve que L'Ordre du Phénix a plus porté l'essence du livre sous la forme cinématographique que La Coupe de Feu, où en fait on n'a pas essayé trop d'adapter, mais on a essayé d'en mettre le plus possible, mais de le condenser. C'est là où il a différence, je trouve. Mais bon, après, on a chacun ses sensibilités différentes. Il y a des gens qui adorent, qui sont attachés au livre et qui pourtant adorent La Coupe de Feu, le film. On en a déjà eu, je crois, en invité. Mais voilà. De toute façon, c'est un sujet qu'on n'épuisera jamais.
Le film préféré, quand on posait la question aux invités, auditeurs et auditrices, c'est Le Prisonnier d'Azkaban qui ressortait 95% du temps.
Ça ressort beaucoup. Alors, pour revenir au terrier, Ron, avec ses malheurs de robe de soirée, il rétorque tout de suite à sa mère qu'il est hors de question qu'il porte cette robe-là, cette robe violette à froufrou. Et il préfère même, je cite, se promener tout nu. C'est un peu marrant, imaginez quand même. Ron tout nu au bal des sorciers. Et là, je vous pose une question. Est-ce que ça rappelle un souvenir chez vous? Est-ce que vous avez déjà eu honte en tant qu'enfant de porter un vêtement ou de n'importe quoi d'autre qui vous était imposé par vos parents?
Ah, bonne question.
Oh, bah, toute la fin des années 90 plus début des années 2000, hein, époque collège, bien évidemment.
La mode.
Alors moi, je m'en fichais à l'époque. Mais quand je regarde maintenant, je me dis que j'aurais dû faire la révolution.
Ah, oui.
Rien allé. Mais honte de quelque chose. Ah oui, des chaussures. J'avais eu des chaussures Kappa, mais avec des, je sais pas comment on appelle ça, mais genre pas des talons, mais
compensé.
Oui, je sais pas comment on appelle ça. Mais beaucoup trop compensé. Le bail, c'était un échafaudage. C'était. Oh là 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 là. Au début, ça allait, mais après, c'était de pire en pire. Et puis après, les moqueries, c'était même plus la peine. Et oui, ça, les chaussures Kappa. En cinquième, je crois, en cinquième ou en quatrième, je sais plus, à peu près l'âge de nos héros. Terrible souvenir.
Moi, j'ai des souvenirs de réclamer des trucs, des habits de marque à la con, juste parce que je savais que mes camarades allaient en porter. Ça me met moins en colère contre mes parents qui me forçaient à porter des trucs que envers moi-même, tu vois. Pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi je voulais à tout prix me fondre dans le moule? Mais par contre, c'est vrai qu'en regardant les photos, Maintenant, avec le recul d'aujourd'hui, je me dis, ouais, des fois, c'était l'abus quand même. Parce que les soupules vers caca, là, vraiment, ah ouais. C'était l'abus, la mode, hein, dans les années 90. Ouais, je sais pas, Brian, quel âge t'as, mais,
nous. J'ai 32 ans. Je suis en 91.
Exactement de la même génération 91. Que nous. Ouais, on était au
tout. Ouais, non. Si vous voyez les pulls que j'ai pu mettre, je ne me rendais pas compte de la chose. C'était terrible.
Compliqué.
L'habit qui m'a le plus choqué, c'est parce que ma mère avait une obsession. Elle avait peur que j'attrape froid l'hiver.
Ah oui, pareil.
Tout en bonnet.
Moi, toute l'année. Hein. En été, elle avait peur que j'attrape froid.
Un bidon d'homme, le truc, quoi. Et alors, je fais 1m57. Je ne fais même pas 1m60. Je suis petite. Et elle m'avait acheté une doudoune.
Michelin.
Qui faisait limite 1m60. Et elle me descendait jusqu'aux chevilles. C'était l'horreur. J'avais envie de pleurer.
Ça me fait penser que je portais des cagoules, moi. Ma mère un peu.
J'allais te le dire.
Ah là là, les cagoules.
La fatale bazooka. Vraiment, je portais des cagoules, quoi. Comme un braqueur de banque, quoi.
Et les caouets.
Je crois que j'étais à cheval parce que j'ai plusieurs frères. Je suis vraiment arrivé dans la génération où. On était sur la fin de la cagoule parce que je l'ai pas eu tout le temps et on passait sur du kawaii aussi, ça le kawaii je me le suis
fait.
Avec la capuche qu'elle te serrait vraiment pour pas que l'eau rentre.
En mode banane quand tu l'utilisais pas.
En mode
le traumatisme des enfants des années 90.
Moi j'ai déjà raconté je crois dans le podcast, mais il y a un moment où je m'identifie vachement à Harry. Mais ça se finit mieux pour lui. C'est pas avec Ron dans ce passage-là, mais pour le coup, c'est vraiment Harry dans l'école des sorciers quand Pétunia lui coupe les cheveux et qu'elle fait une catastrophe. Elle lui coupe tous les cheveux, elle lui laisse juste une frange pour cacher sa cicatrice.
Attends, tu vas raconter vraiment l'anecdote de la coupe de cheveux avant.
J'ai déjà raconté, mais pour Harry, ça se finit bien parce que grâce à la magie, sans qu'il s'en rende compte, il arrive à faire repousser ses cheveux. Sauf que moi, il m'arrivait la même chose, sauf que j'étais pas un sorcier et que c'est ma voisine. Qui m'avait coupé les cheveux au ciseau de cuisine, qui s'était proposé, qui m'a complètement raté. Et le lendemain, j'ai dû aller à l'école comme ça. Et genre, j'avais une boule au ventre maximum parce que j'étais affreux. J'ai dû y retourner après chez le coiffeur pour reprendre cette catastrophe. Mais voilà, j'ai une identification.
C'est la voisine un peu psycho en plus. Hein.
Ouais. Enfin bref.
J'avais te coupé les cheveux, petit enfant. Tu n'as rien demandé, mais c'est pas grave.
On a tous un passage, un moment dans Harry Potter où ça nous rappelle à notre propre enfance ou à notre propre adolescence. Je pense qu'on a tous ce genre de petits passages.
Ben, moi, je me suis un peu, en parlant d'identification, je me suis un peu identifiée à Hermione pour ce chapitre. Parce que Hermione, quand il y a un sujet qui lui tient à cœur, elle va le défendre. Mais au moindre petit mot sur le sujet, elle part en direct dans les tours. Et moi, je suis un peu pareil. Alors, j'essaie de me calmer parce que quand on voit Hermione et Percy, on se dit ouais, ça peut être un peu lourd. Et j'essaie de me calmer et tout, mais c'est vrai que je m'identifie vachement à Hermione sur ce sujet.
Le militantisme, mais
c'est ça.
C'est crédible parce que c'est souvent des choses, des aspirations qui arrivent à l'adolescence. Voilà, on devient militant.
Ouais, sauf que je suis plus adolescente depuis le temps.
Ouais, mais c'est bien d'avoir des convictions. C'est bien d'en avoir eu, c'est bien de les garder aussi. Hein.
Oui.
Bon, on retourne à notre pauvre Molly. Et sa robe elle est bien obligée de la défendre auprès de Ron et Molly elle dit que voilà c'est la règle d'ailleurs Harry lui aussi il a une robe de soirée et donc avec appréhension Harry il cherche la sienne dans son tas de vêtements mais il est soulagé en découvrant une robe verte bouteille tout à fait convenable à ses yeux et Molly ajoute qu'elle s'est permise de prendre celle-ci pour justement faire ressortir la couleur de ses yeux. Elle est gentille. Ron, elle est gentille, mais c'est un peu abusé pour Ron. Parce que Ron, il revient à la charge en disant que bah, celle d'Harry, ça va, mais la sienne, c'est carrément la honte. Ce à quoi Molly répond qu'elle a dû prendre sa robe d'occasion et que c'est comme ça, il n'y avait pas vraiment le choix. Et là, là, c'est gênant. En tout cas, Harry se sent gêné parce que il sait que les Weasley ne roulent pas sur l'or, contrairement à lui, et qu'ils accepteraient jamais s'il leur proposait de partager tout son coffre-fort.
Ça, c'est tellement humain et tellement beau et ça m'énerve tellement quand on voit des gens dire que Harry est un radin.
Ouais.
Ils ne comprennent pas que les Weasley sont trop d'honneur pour ça et que Harry ne demande que ça de partager toute sa fortune avec eux. Mais que non, qu'est-ce que ça m'énerve ce genre de propos. Bon, après, voilà, mais petit coup de gueule, comme ça.
Non, non, mais...
Ça arrive plusieurs fois que Harry, il y a eu l'affaire des multiplettes aussi, me semble, avec Ron.
C'est ça. C'est ce que je me disais, c'est que ça concerne. On parle pas que de Molly ou d'Arthur, on parle pas que des parents. Non. C'est quelque chose qui se aussi. C'est le cas pour tous les enfants, en fait. Il y a Ron avec les multiplettes qui va même en vouloir à Harry parce qu'il va se rendre compte qu'il l'a remboursé avec de l'or de farfadé, donc il va être là. Mais je vais jamais pouvoir te rembourser. Alors qu'Harry, il s'en fiche, il veut jamais être remboursé de la vie. Et puis Fred et George aussi, qui vont avoir du mal à accepter les 1000 galions. Alors, c'est une énorme somme, mais ils se sentent pas légitimes, ils vont avoir du mal à accepter. En fait, Harry, il leur laisse pas le choix, et c'est la seule façon pour lui de donner de l'argent. Mais...
Alors qu'ils sont carrément légitimes, parce que finalement, ils vont construire un super projet ensemble, le projet de leur vie, quoi.
Bon, moi, perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais donné les 1000 galions à Percy pour qu'il mette... pour qu'il finisse son rapport sur les fonds de chaudron de façon nickel.
Pour qu'il lance sa ligne de chaudron.
Pour lancer une nouvelle marque
jamais
de chaudron
de la vie.
Au fond épais. Non. Je plaisante, bien sûr.
Ah non, pour le coup, c'est une excellente idée qu'elle a eue de lui faire donner à Fred et George encore en préparation du prochain tome et tout ça. C'était ce qu'on aurait pu se dire. Ah, je crois qu'il y a songé. J'allais dire qu'il le donne à Amos Diggory, tout ça, mais je crois qu'il y a songé qu'Amos n'en voulait pas.
Ouais, il propose d'abord à Amos Diggory. Ouais.
Décidément, Harry, mais quel homme!
Oh. Ouais. Tout à fait. Molly finit par s'énerver et elle dit à Ron qu'il aura qu'à se promener tout nu, comme il dit, et elle demande à Harry de prendre une photo car elle aurait bien besoin de rire de temps en temps. On a eu un petit burn-out là de Molly qui, encore une fois, c'est les prémices du comportement de Molly à partir de l'ordre du phénix où elle va être complètement en panique, stressée, elle va se rendre malade pour ses enfants, ses proches, qu'elle va voir mort. Je trouve que voilà, c'est les prémices de ce qu'on aura par la suite. Madame Weasley claque la porte et, sur la surprise, Coq s'étouffe bientôt avec du miam hibou. En venant en aide à son hibou, Ron peste contre le fait que c'est toujours lui qui se retrouve avec ce qu'il y a de plus ridicule.
Ah, le vilain. Il est trop mignon, Coq, moi je le veux.
Grave.
Je l'adopte sans problème s'il le veut pas.
Il y a une propension à Ron à un peu toujours d'après. Bon, c'est le dernier garçon, celui qui a toujours les affaires de tous ses frères en dernier, mais c'est Sirius qui lui offre Coq, il me semble, parce qu'il a perdu Cutter. C'est un geste adorable déjà. Bon, il est peut-être un petit peu casse-pied, mais il est trop mignon, Coq Sigru.
Après, je pense que Ron, il le dit, mais il le pense pas vraiment.
Ouais.
Il est un peu râleur.
Il est râleur, mais. Au moment où il adopte Coq, c'est un peu comme Croutard, il arrêtait pas de s'en plaindre, mais en fait, il était hyper attaché à Croutard.
C'est vrai.
Donc, je pense que, il râle plus qu'autre chose.
Sur ces derniers mots, on clôt la fin de ce chapitre. Merci beaucoup.
Toi, tu clôt la fin de quelque chose.
En plus, il rit parce qu'il sait que je suis pas bonne en transition. Tu l'appuies.
Non, mais ça fait 4 ans qu'on fait du podcast, on est des professionnels.
4 ans avec les pauses, ça fait 10 ans. En tout cas, merci à toi, Brian, pour ce chapitre.
C'était très chouette, franchement. Même le plus petit des chapitres, on peut trouver
finalement,
plein de choses à dire.
C'est trop cool.
On s'inquiète plus pour ça. On s'inquiète au début, mais maintenant, on s'inquiète plus.
Vraiment, c'est une super expérience avec vous, parce que moi, je l'ai relu pour préparer un petit peu le podcast. Et c'était agréable, mais je ne pensais pas qu'on pourrait autant en dire, autant en découdre.
Ah ouais, t'avais envie de te fighter, en fait, avec nous.
Avec Percy, m'a énervé. Mais vraiment, j'avais zappé tout le côté humain de tous ces petits instants de famille, comme on a parlé. Mais d'en parler tous ensemble, ça fait qu'on extirpe énormément de choses. Donc, c'est grave cool.
Ouais, et puis on peut toujours faire des rapprochements avec notre vie ou la réalité aussi. Et partir dans des débats assez sympas.
Tu viendras nous rejoindre, Brian, sur un gros chapitre avec plein de trucs. Et là, tu vas rentrer dans le dur, vraiment, de certains de nos épisodes.
Le pire souvenir de Rogue.
Ah, voilà.
Chapitre Ordre du Phénix, mon préféré. Je serai là.
Ok, c'est noté.
Bon, Jérémy, est-ce que je te remercie ou pas avant de passer au meilleur personnage?
Non, je pense qu'il est temps de clore la fin de cette partie.
Bon, allez, sur cette clôture de fin de chapitre, on va passer à la chronique du meilleur personnage du chapitre. Honneur à l'invité. Brian, est-ce que tu as un personnage préféré?
Alors, c'est paradoxal. Enfin, c'est pas paradoxal, mais j'en avais un avant. Comme je vous ai dit, j'ai lu le chapitre avant de venir ici. Non, pas merci du tout. Ça aurait pu, parce que c'est d'un passage que je trouve un peu mignon, en mode il va se donner de l'importance. À la base, je voulais dire Arthur Weasley, parce que j'aimais bien l'aspect sérieux qu'il avait dans ce chapitre. J'aime bien quand on découvre une autre facette d'un personnage, qui n'est pas hors du personnage, mais Arthur Weasley, c'est vraiment le papa qui fait rire tout le monde, voilà, déconnant. Mais là, on voit sa facette vraiment sérieuse, sa vie grave, son travail qui lui prend du temps, il rentre tard. Il mange très peu, il a l'air fatigué, tout ça. Mais maintenant qu'on en a parlé, je serais plus limite sur Molly. Tout le côté humain, le côté la mère de famille qui a peur pour ses enfants, qui leur dit c'est la dernière fois que je vous ai, c'était peut-être la dernière fois qu'on parlait. Et je vous ai pas dit quelque chose de très sympa. Pareil, celle qui va chercher les affaires même de l'ami de son fils. Après cette super discussion très humaine, moi, je vote pour Molly Weasley, pour tout cet aspect famille. Et voilà.
Bon choix.
Ouais, bon choix.
Et toi, Jérémy?
Moi, j'ai été beaucoup moins humaniste que Brian. Non, en vrai. Non, en vrai, moi, j'ai choisi Bill. Juste pour le petit tacle qui lance à Percy, fais-nous plaisir, Percy, tais-toi un peu.
J'avoue,
c'est... c'est quelque chose vraiment qu'on a tous eu au moins un moment, eu envie de dire à Percy. Et puis, il vient défendre son père aussi à ce moment-là, en fait. Donc, c'est là aussi son côté cool et c'est pas juste beau gosse. Voilà. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui a une place importante dans sa famille et pour qui la famille, c'est une valeur importante. Et là, il voit que son frère, il a dépassé la limite. Là, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, juste tais-toi, en fait. Et
surtout j'aime bien ce comportement. Après le moment qu'ils ont vécu.
Ben oui.
Tous en danger de mort. J'aime bien. Ils se perdent les uns les autres et finalement, ils critiquent son père dès qu'il rentre à la maison.
Et toi, Marina, du coup, tu choisirais...
Au départ, j'avais choisi Molly, son côté humain dans ce chapitre, tout au long de la saga, de toute façon. Mais finalement, je me remets sur Hermione.
Tu ne l'as pas du tout convaincu, Brian, ça veut dire.
Bien sûr que si, puisque c'était mon personnage, mais je ne vais pas répéter.
Comment, je vais prendre la
Brian
place, voilà. Gryffondor, voilà, j'ai pris Molly, vas-y. Fais-toi plaisir.
Mais Hermione, parce que je me suis identifiée.
Oui,
j'aime bien son côté militante et tout, donc voilà.
Ok. Que des personnages exceptionnels, de toute façon. On aurait pu en choisir d'autres.
Des Gryffondor.
T'as le côté troll en moi, parce que des fois, je troll, j'aurais pu choisir mon Angus Fletcher. J'y ai pas pensé, j'avoue. Mais
fraude à l'assurance.
le fraudeur, là. C'est un bon troll, lui.
Mais ça revient, du coup, à la question qu'on s'était posée lors de l'installation au camping des Weasley et tout. C'est la question de, finalement, est-ce qu'il y a un marché des tentes sorcières? Parce qu'ils ne créent pas eux-mêmes leurs tentes. Ah. On a vu ça demande de la magie particulière. Et donc, du coup, il y a un marché, puisque tu vois, mon Dingus, il n'a pas les moyens de se payer une super tente à 12 pièces.
Il y a des tentes de marque, de luxe, avec accessoires.
Et on avait été jusqu'à se poser la question.
Est-ce qu'il y a une maison du monde sorcier, quoi?
Maison du monde sorcier. Apparemment, oui, vu que tu as des tentes de luxe avec Jacques.
Il y a du marketing sur les tentes quechua sorcières.
Il y a but et t'as poltron et sofa à côté, quoi. Bah, chez les sorciers, c'est pareil.
Poltron. N'importe quoi. Bon,
allez,
il
est temps de clore la fin du meilleur personnage.
C'est vache.
Et de passer à la volière.
Et nous commençons par un premier hibou sonore de Jade.
Salut les fréquences et à l'invité s'il y en a un. Déjà, je voulais vous dire que je suis trop contente que vous soyez revenus et que vous alliez mieux. Vraiment, je suis trop contente et je pense que je ne suis pas la seule. Je me suis toujours posé une question par rapport à Harry Potter 3 dans le Poudlard Express quand, en fait, Harry, Ron et Hermione vont dans le compartiment où il y a Remus Lupin. J'ai toujours trouvé ça bizarre qu'un professeur soit dans le Poudlard Express. Et je me demandais si, par exemple, dans Harry Potter 2, c'était la même chose avec Gildor et Lockhart, si lui aussi, il était dans le Poudlard Express, mais que juste, on le mentionnait pas. et que peut-être aussi tous les ans, en fait, il y avait un adulte de Poudlard qui était dans le train pour les surveiller, peut-être, ou en cas de gros accident, comme bah là, par exemple, avec le Détraqueur. Donc, je sais pas trop, c'était ma question, voilà. Bisous!
Merci beaucoup, Jade, pour ton hibou nuancier. On est trop contents de revenir auprès de vous. Alors, on peut faire que des suppositions par rapport à la présence des professeurs dans le Poudlard Express. Je pense que la plupart des professeurs qui sont à Poudlard de longue date habitent sur place. Donc, ils n'ont pas forcément de besoin de revenir pour la rentrée. Mais par exemple, on va voir... alors, je n'ai pas noté dans quel tome, mais on voit que le professeur Slughorn prend le Poudlard Express, puisque la première réunion du club de Slug se passe dans le compartiment C du Poudlard Express. Je suppose que du coup, Gilderoy Lockhart, vu que c'est un nouveau professeur, il le prend aussi le jour de la rentrée. Quoique, vu qu'il est un peu snob, est-ce qu'il veut se mélanger au peuple, aux élèves? Ça, je sais pas.
Et... Ah si, il avait talent, on l'aurait su, du coup, vu qu'il aurait...
Oui, c'est vrai. Ouais. et Lupin, alors la question, c'est... En fait, c'est pas anormal, je pense, que les professeurs prennent le Poudlard Express, mais c'est surtout pourquoi Lupin s'est mélangé aux élèves finalement. Pour JK, c'est un moyen de l'introduire et d'introduire le Patronus. Mais du coup, la question, ouais, c'est pourquoi il se mêle aux élèves.
J'ai une théorie.
C'est pourquoi?
Il est dit qu'il est vachement fatigué, très diminué, et je me demande s'il n'y a pas une pleine lune récemment. Et qu'il est trop fatigué d'y aller par ses propres moyens.
Non, mais pourquoi, du coup, s'il y a un compartiment réservé au professeur, il ne s'est pas mis
Je pense là pas où qu'il y a tous les adultes. Un compartiment des profs.
Ou des adultes.
Il y a plusieurs possibilités, en fait. Je ne pense pas qu'il y a un compartiment pour les professeurs. Effectivement, je pense que les professeurs viennent à Poudlard par leurs propres moyens ou habitent pas loin. Mais déjà, c'est Harry Potter 3, donc menace Sirius Black. Beaucoup de sécurité. Et avoir le professeur de défense contre les forces du mal dans le train, est-ce que c'est pas une mesure exceptionnelle pour protéger les élèves mieux qu'avec des détraqueurs?
Ah ouais.
Et ça a bien fonctionné. Il y a une autre théorie qui dit que on sait très bien que Remus Lupin n'a pas beaucoup de moyens, donc qu'il a juste demandé à venir jusqu'à Poudlard. Bon, après on peut pas transplaner à Poudlard, c'est vrai. Donc il voudrait qu'il ait juste emprunté le train juste pour moi. Après, évidemment, la vraie raison, on le sait tous, c'est que ça sert l'histoire.
Ah oui, oui.
Mais moi je pencherais plutôt on va trouver l'excuse facile, c'est que c'est la période Sirius Black, et avoir le professeur de défense contre les forces du mal, celui qui représente justement le bouclier contre les forces du mal dans le train, ça peut être une mesure un peu exceptionnelle et plus douce que d'envoyer des traqueurs fumer les vitrines du train.
Mais même maintenant que tu dis ça, est-ce que la demande vient pas même de Dumbledore? Parce qu'il avait quelque part senti que les détraqueurs pouvaient faire une bavure. Et dans ce cas-là, il préférait qu'il y ait Lupin qui soit là ou n'importe quel autre prof.
Après, du coup, notre théorie tombe un petit peu à l'eau parce que Lupin se tape la plus grosse sieste de sa vie.
Il se réveille à temps.
tu vois, ça tombe un peu à l'eau parce que connaissant Lupin, ils sont sérieux. Si on l'avait engagé pour protéger les élèves, je le vois vraiment mal.
Ma théorie vient s'additionner à ça, voilà. Et qu'en fait il est fatigué, parce qu'il y a une pleine lune. Toutes les théories sont ok et se déroulent en même temps. Mais ouais. Après, ou alors il avait pas le choix. Peut-être ça, parce que j'ai l'impression que Slughorn il prend le Poudlard Express parce que il a envie de prendre le Poudlard Express. C'est par choix qu'il le fait lui.
Oui,
parce qu'il veut faire sa petite réunion préliminaire là avec tous ses petits chouchous.
Mais après la question, est-ce que le Poudlard Express est vraiment gratuit?
Ouais, je pense quand même, non? C'est dans les c'est compris dans les frais d'inscription. En tout cas, pour les élèves, c'est gratuit, oui.
Pour les profs, ouais.
Les profs, pour le coup, on a que... je pense qu'il y a des... Non. Mais comme il y en a très peu, de toute façon, voilà.
Ouais. Où est le contrôleur du Poudlard Express? On a Stan Rockade, mais où est le contrôleur du Poudlard Express?
C'est ça.
Ils se refont leur sous sur les friandises, en fait, c'est pour ça.
Nous passons au prochain hibou sonore qui nous a été envoyé par Nicolas.
Salut la fréquence, écoutez, je reviens vers vous puisque j'ai une question et quelque chose qui me taraude depuis un petit moment. D'après la loi élémentaire de Gamp, on ne peut pas créer l'amour, la vie, l'information et la nourriture. Pourtant, dans le tome 4 Harry Potter, page 67, il est écrit « Elle posa brutalement une grande casserole de cuivre sur la table de la cuisine et fit tourner plusieurs fois sa baguette magique à l'intérieur. Une sauce onctueuse jaillit alors de la baguette, tandis qu'elle décrivait des cercles pour la remuer. Madame Weasley vient alors de créer une sauce onctueuse qui est, il me semble, de la nourriture. Mais il est impossible de créer de la nourriture, c'est écrit dans les livres. Comment ça se fait que là, elle crée de la nourriture? Parce que la sauce, elle ne vient de nulle part. J'ai lu les pages avant, les pages après. La sauce ne vient de nulle part, elle sort de sa baguette. Éclairez-moi, est-ce une grosse coquille de la part de J.K. Rowling? Please, aidez-moi. Merci. Voilà, à très bientôt.
Merci Nicolas. Alors je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on adore ta voix déjà.
Totalement d'accord. Il faut qu'il fasse des livres audio, c'est pas possible.
Ouais. Ah ouais, fais tout le livre audio, nous on t'écoutera. Ou fais ton podcast, ou fais ta propre chaîne YouTube, Nicolas.
Par contre, je veux un duel de prononciation entre Rowling, comme toi tu dis Rowling.
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 Rowling, J.K. Rowling.
Alors concernant ta question, qui est une très bonne question, alors c'est vrai que la seule exception connue à la loi de Gorm sur la métamorphose élémentaire, c'est la nourriture. On peut spéculer sur les autres, mais la nourriture, c'est sûr, c'est dit par Hermione dans le tome 7 et ça paraît assez cohérent. C'est un peu embêtant comme justification, mais je pense que je dirais que la sauce, elle vient bien de quelque part, en fait. Mmh. C'est-à-dire que les ingrédients, ils existent et ils ont été préparés par Madame Weasley en dehors de la scène, en fait. Un peu comme dans les animaux fantastiques, la cuisine, elle se fait par magie, mais les ingrédients, ils peuvent pas être créés par la magie. Il faut se les procurer et ensuite, avec des sortilèges, on fait la cuisine. Donc, c'est ce que je dirais. Puis, de toute façon, dans les reliques de la mort, la loi de Gump et ses exceptions, c'est là simplement pour poser des limites et pour justifier le fait que la survie, c'est compliqué pour arriver en Hermione. Sinon, il y a pas d'enjeu. Donc, il y a aussi une limite à ça. Je sais pas si vous avez des commentaires.
Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est une coquille, mais qui peut justifier. Je pense que la sauce existe dans un autre endroit de la maison, mais pourquoi le préciser avant? Ça, faut pas oublier non plus que t'enlèves tout le côté magie du roman, parce que si au lieu de dire elle fit tourner sa baguette et de la sauce en jaillit, elle fit tourner sa baguette et de la sauce qu'elle avait cuite préalablement auparavant qui est dans le grenier du
note en bas de page.
Et la sauce de Marc Repère arriva dans son chaudron.
Validée par Philippe Etchebest. ça enlève un peu la magie. Donc moi je pense comme Jérémy, que la sauce existait déjà et que je vois pas à quel moment elle a besoin de le préciser avant. Mais bon, elle savait pas qu'elle tomberait sur des gens si pointilleux.
Bah après, c'est de sa faute aussi à elle, parce que en fait, elle donne.
Ouais, clairement.
Elle donne d'autres éléments ensuite. Et encore là, ça va. On parle d'un truc dans le livre parce qu'elle a aussi fait pas mal de commentaires en dehors des livres, sur des interviews et tout ça, où elle commente en fait les livres. Donc ça revient remettre en perspective encore, ça donne une nouvelle dimension. Bon là, il se trouve que c'est dans le livre, donc c'est vrai que Nicolas, il est tout à fait légitime de se poser la question, parce que de base, c'est pas forcément évident. Marina, tu voulais ajouter quelque chose?
Pas du tout, c'était très complet.
Tu aimes la sauce onctueuse de Molly Weasley, c'est ça que tu voulais dire?
C'est ça.
On s'en fout d'où elle vient, on l'aime, elle est bonne, c'est le principal.
Nous passons au hibou sonore de Lisa.
Salut la fréquence et salut à l'invité potentiel qui sera là le jour de l'émission. Je ne vous envoie un hibou sonore que maintenant parce que je suis en train de me mettre à jour de vos émissions que vous ayant découvert il n'y a pas très longtemps. Je suis d'ailleurs ravie que vous reveniez sur l'antenne pour nous raconter la suite de Harry. Je voulais revenir dans un des derniers épisodes. L'une de vos invitées a dit que pour elle, Peter Pettigrew était un poufsouffle. Et alors, je veux bien qu'on nous tacle régulièrement. Mais alors, mon âme de poufsouffle en a pris un coup, parce que pour moi, Peter Pettigrew, s'il devait y avoir un classement des maisons, ça serait vraiment la quatrième dans laquelle il pourrait être. Parce que les qualités d'un poufsouffle sont quand même la loyauté, l'humilité, la gentillesse, enfin, que des choses comme ça. Et alors là, pour le coup, Peter, c'est le dernier à être à Poufsouffle. Je le vois même plus à Serdaigle. Désolé, Jérémy. Mais pour moi, c'est pas du tout l'âme d'un Poufsouffle. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que du coup, vous êtes passé à Luna dans l'épisode. Et j'étais d'ailleurs totalement d'accord avec vous. Mais voilà. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Et remettre un peu de soleil dans la maison Poufsouffle, parce qu'on en a besoin, s'il vous plaît. Allez, bonne continuation à vous et à la prochaine.
Merci Lisa pour ton hibou. T'as raison de remettre les pendules à l'heure pour la maison Poufsouffle. Ça suffit maintenant.
Qui a osé dire un truc pareil ?
C'est vrai que je m'en souviens
Peter
plus.
Peter Pettigrew à Poufsouffle.
Ouais, je m'en souviens plus non plus. Mais en fait, le problème, c'est que personne ne veut Peter Pettigrew dans sa maison. Même les serpentins.
Ça, c'est vrai.
C'est ça le problème.
C'est tellement vrai.
En fait, il appartient même à aucune maison, je dirais.
Bah, en tout cas, parce que j'étais retombée sur un article de la Gazette du Sorcier qui, je ne sais plus qui a écrit cet article, j'ai mangé son nom, désolée, qui comprenait tout à fait pourquoi Peter Pettigrew est un Gryffondor. Mmh. Je ne suis pas d'accord du tout avec cet article. Pas du tout. C'est le premier chapeau flou. Enfin, c'est le seul chapeau flou qu'on connaît.
Non,
déjà.
Non, non. Il, bah, par contre, il est chapeau flou ?
Oui, entre Serpentard et Gryffondor.
Okay.
Pas Marie.
Ah ouais, ok. Non, on sait que McGonagall, je crois que c'est une chapeau flou, Serpentard, Gryffondor. Bah,
attends, tu me mets le doute, mais si, si, il est chapeau flou, Peter Pettigrew.
Je suis pas sûr. Hein.
Vérifions.
McGonagall, c'est sûr. Ouais. Et il y en a un deuxième. Peut-être que c'est Peter le deuxième. Possible.
Oui, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est Peter Pettigrew, c'est le deuxième.
Ah. Et... La vérité est rétablie.
C'est bon, je vais pouvoir bien dormir ce soir.
Je savais pas, j'avais complètement oublié.
Ouais. Donc du coup, vu qu'il est chapeau flou entre Gryffondor et Serpentard, bon bah on exclut du coup Serdaigle et Poufsouffle, on réhabilite Poufsouffle.
Merci.
Et du coup,
Serdaigle.
On réhabilite Serdaigle aussi. mais pour moi, il est carrément Serpentard. Et sa place à Gryffondor est pas du tout justifiée.
Ouais, mais
parce que ça par exemple, quand il va sauver la vie de Harry, je sais pas pourquoi, hein, c'est totalement du feeling, mais je sens qu'il y a toujours un fond de lâcheté en fait dans son comportement.
Oui.
Ah bah clairement ça vient pas de lui, c'est pas lui.
Ça vient jamais de lui, ça vient jamais d'un bon fond.
C'est pas un suicide, c'est voilà.
Et du coup rien que pour ça il peut pas être Gryffondor en fait. Mais même une Serpentard parce que ça signifie que Serpentard t'as forcément mauvais fond en fait.
Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'il peut pas être aucune maison. Je sais pas si cette phrase a un sens. Mais à la fois.
Comme clore la fin du chapitre.
Mais à la fois il peut être toutes les maisons. Parce
oui.
que c'est un manipulateur. Et en fait, ce qu'il fait... C'est un caméléon. Et il peut s'immiscer dans tous les contextes, dans tous les milieux. Et en fait, il va en tirer le meilleur profit. Donc en fait, il n'est aucune maison et toutes les maisons à la fois, je dirais comme ça.
C'est ça.
Ah, c'est vrai, t'as raison.
C'est vrai que pour le coup, même si on est d'accord qu'il peut être partout, Poufsouffle, c'est vraiment la dernière option où personnellement je le verrais. Après, pour des personnages comme ça, j'ai un peu une vision un peu peut-être trop serrée, mais pour moi, si c'est un Gryffondor, il peut être que Gryffondor ou Serpentard, et si c'est un Serdaigle, il peut être que Serdaigle et Poufsouffle. Je sépare un petit peu les deux, les maisons soft, on va dire, entre gros guillemets, donc Serdaigle et Poufsouffle, travail acharné, sagesse, calme, et Serpentard-Gryffondor, beaucoup plus dans l'action, l'émotion, le conflit. Et donc passer un Gryffondor à un Poufsouffle pour un personnage aussi problématique que Peter, c'est juste impossible. Donc comme Marina, je le verrais plus à Serpentard s'il fallait vraiment changer de maison. Mais c'est clairement un personnage que tu ne peux caser nulle part et qui a passé sa vie à juste vouloir survivre. Quand ça allait du côté des gentils, il était du côté des gentils, mais voilà, c'était... Personne n'en veut, ça c'est terrible. Crabbe et Peter Pettigrew.
Personne n'en veut.
Après, aux grandes dames de Marina, moi je peux te donner mon exemple, Brian. Je me sens une ascendance Serpentard alors que je suis Serdaigle. Marina, elle se moque tout le temps de moi. Mais
c'était le moins Serpentard.
Ma deuxième maison,
du monde.
Ça serait Serpentard, je pense.
Moi je comprends que je puisse avoir un fond Serpentard, mais toi je comprends pas.
J'aime bien que ça te fasse marier à chaque fois.
Mais un ascendant, de toute façon, on est tous un peu de toutes les maisons. Donc, un ascendant, une deuxième maison. Parce que moi, je sais que je suis... tu vois, je viens de le dire, et pourtant, je suis Gryffondor, ascendant Poufsouffle.
Ah, clairement. Bah tu vois.
Mais je veux dire, pour la maison principale, changer de tout au tout... après, bon, tout existe, ouais, évidemment. Ouais. Hein, mais je parle surtout des personnages aussi, aussi problématiques comme Peter Pettigrew. C'est sûr qu'il fait honte à Gryffondor. Et de là, le match chez Poufsouffle, d'être convaincu qu'il... Je n'adhère pas, je suis désolé.
Je suis d'accord.
C'est bon, Lisa.
Ouais, rétabli.
Poufsouffle,
on a rétabli Poufsouffle.
C'est bon.
Et on passe au dernier bout sonore de cette volière qui nous a été envoyé par Colline.
Bonjour la fréquence 9¾. Je m'appelle Colline, j'ai 12 ans et j'adore votre podcast. J'habite en Suisse Et j'avais une question à propos de Harry. Quand il est en vacances d'été chez les Dursley et qu'il fait ses devoirs sous sa couverture la nuit, eh ben, il utilise le sortilège Lumos avec sa baguette. Et je me demandais pourquoi eh ben, le ministère de la magie, il lui disait rien. Il ne détectait pas ce sortilège. Voilà, j'espère que vous pourrez répondre à ma question. Gros bisous, continuez comme ça.
Merci Colline, merci pour ton hibou sonore et ta question. Je crois qu'on l'a déjà évoquée, mais il n'y a pas de problème de le re-évoquer. Moi j'ai une réponse assez simple, c'est parce que le film c'est visuel, c'est bien, donc Balek, comme beaucoup de choses.
Explique à Colline, 12 ans, ce que veut dire Balek.
Balek, alors c'est de l'argot, alors je crois que c'est dans Doctor Who, il n'y a pas des Balek, non. Je vais me faire démonter par Cédric. Non, mais il y a plein de passages dans les films où ils vont se permettre de faire quelque chose parce que c'est visuel, ça rend bien à l'écran, mais quelque part, c'est pas cohérent si on suit la logique des livres. Et ça, ça en fait partie parce que dans le livre, Harry, il fait jamais ça parce que c'est interdit. C'est-à-dire qu'il peut pas lancer de Lumos dans sa chambre à privé de drive, c'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'après, ça plaisait au réalisateur de faire une ouverture comme ça. Et d'ailleurs, alors, je sais pas si c'est moi, et désolé, Colline, parce que je sais que tu as un jeune âge, mais pour moi, il y a toujours eu une espèce de...
J'allais en parler. Est-ce que c'est toi qui me l'as mis dans la tête c'est une théorie
C'est le Serpentard qui t'a perverti.
Ah, ouais,
non, mon Dieu.
Connaissant le bougre Alfonso Cuarón, je pense qu'il y a une métaphore un peu graveleuse derrière ça. J'en suis même persuadé, quoi. Mais parce que tout son film tourne autour de l'adolescence et je pense qu'il a vraiment pris à bras-le-corps le thème de l'adolescence. Et je vous invite à revoir cette scène et vous poser la question, qu'est-ce que ça peut raconter sur l'adolescence? Voilà, mais je pense que c'est ça qui lui plaisait au-delà de la cohérence du livre.
Bah c'est ça, clairement. J'aime beaucoup le troisième film, c'est pas mon préféré non plus, mais Alfonso Cuarón est arrivé, il en a eu un peu rien à faire de la cohérence. Les décors balais, ouais, on s'en fiche. Mais là, clairement, j'avoue que c'est un truc que... Bah c'est joli l'intro, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autre chose de totalement marquant? Parce que clairement, déjà, dans le film précédent, ça avait posé problème, la magie... voilà, il disait bien que, enfin, il me semble, hein, dans la chambre des secrets, qu'on dit qu'il peut pas utiliser la magie hors de l'école. Je sais plus trop.
Oui, parce qu'il y a Dobby. Oui. Hein.
Voilà, il y a Dobby, et même dans le 3, enfin, dans le film lui-même, bon, c'est pas vraiment la même chose, mais il a peur d'avoir utilisé la magie sur la tante Marge et que le ministère le chope, l'envoie en prison. Bon, là, on est sur une agression sur un moldu, donc c'est pas le même genre, mais il y a cette référence au fait qu'on n'utilise pas la magie en dehors de... Bah, il le dit dans le film L'Oncle Vernon.
Ouais, ouais.
Il lui dit « Tu peux pas le faire, tu vas être envoyé, tout ça. » Et effectivement, dans la scène d'intro, on le voit faire des lumos.
Ça vient contredire ce qu'on a vu quelques minutes avant, ouais.
Donc autant, beaucoup ce troisième film, mais ce genre de truc, c'était un petit peu abusé, surtout pour l'introduction. On lui fait confiance, je suis sûr qu'il y avait bien d'autres choses poétiques à faire. Et c'est clairement juste une envie du réalisateur contre toute cohérence dans le récit.
Surtout que pour ce film-là, on ne traverse pas les lettres Harry Potter pour rentrer dans le film. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Sincèrement, je ne m'en souviens plus de
dans les deux. Attends. Ah non, quoique dans le premier, non plus. Dans le premier non plus.
Ça marche pas.
Non, ça marche pas.
Ok.
Je crois que il est temps d'arrêter la volière. Je commence à raconter des grosses conneries.
Et justement, cette volière, elle est terminée. Si vous n'avez pas été cité, n'hésitez pas à nous renvoyer votre message ou d'en faire un autre, en vocal ou par écrit. Ça donne plus de chances d'être sélectionné comme ça. Et pour ce faire, on vous invite, comme d'habitude, à nous envoyer un MP sur nos réseaux Instagram, Twitter ou Facebook ou bien par mail à l'adresse fréquence934@gmail.com. Toutes ces infos et le reste sont disponibles en description de l'épisode.
On a aussi depuis peu une vraie boîte postale. Si tout est OK au moment de la sortie, ça devrait être disponible là aussi dans la description. Ce qui est sûr, c'est que notre podcast est disponible sur à peu près toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires si votre appli le propose et que ce n'est pas encore fait. Merci à celles et ceux qui ont commenté récemment sur Apple Podcast. On vous cite parce que ça fait quelque temps qu'on l'a pas fait. Une étoile perdue, Manon UTL, le bon Mayenné, Miss Kwan, Roro Potter, fan de Juju, Tim Serdaigle. suis d'accord avec ce pseudo, perso. Sophrovi. Alors, Sophrovi, tu nous as dit plein de trucs gentils, mais tu t'es trompé, tu nous as mis 1 étoile sur 5. Si tu pouvais changer.
Mais ça arrive, ça.
Ça arrive souvent.
Super gentil, 1 étoile.
Peut-être très exigeant. J'adore, meilleur podcast ever. Hein.
C'est ce qui s'est passé pour Sophrovi. Merci à La Potter Addict et OCB. Et on n'oublie pas non plus Juju Nul aux jeux vidéo sur Podcast Addict. T'inquiète pas, tu seras meilleur. Et puis la grande majorité d'entre vous qui notez sur Spotify et ceux qui likent et commentent sur YouTube. Parce que oui, Brian, on est sur le YouTube game, comme on l'a dit au début.
On arrive.
C'est pas vrai. Oui, oh mon Dieu.
La YouTube Money qui arrive à flot. Merci à tous. Tout ça, ça nous permet d'être bien référencés et ça permet à de nouveaux auditeurs de nous rejoindre tout simplement.
Et la manière ultime de soutenir notre projet, c'est de rejoindre notre Patreon, dont le lien est en description. Alors, on a lancé la page il n'y a pas très longtemps. Un grand merci aux premiers contributeurs qui nous ont rejoints. Franchement, on est trop contents. Vous êtes trop des fous. Avec,
on est partis à Dubaï, d'ailleurs, grâce à vous.
Non, mais vraiment, on se demandait si on allait avoir 2 contributeurs, si ça allait plaire ou pas. Et finalement, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints.
Finalement, oui. J'ai cru que t'allais finir comme ça. Non, j'arrête.
Avec 4 galions par mois, vous avez accès aux épisodes de La Fréquence une semaine avant leur sortie, que vous pouvez même écouter depuis Spotify ou n'importe quelle autre appli en liant votre compte Patreon. C'est beau la technologie quand même.
Incroyable.
C'est fou.
C'est incroyable.
2023, baby. Et vous avez aussi un accès exclusif aux aftershows qu'on enregistre après que l'épisode soit terminé. Par exemple, aujourd'hui, on ne va pas couper nos micros tout de suite et on va continuer de papoter encore un peu avec Brian à propos d'Harry Potter et de YouTube. On va donner quelques conseils à Brian pour débuter sur YouTube, faire des vues, monter...
Des petits tips and tricks pour développer sa chaîne.
Ouais, il nous a demandé en off, il n'y a pas de souci, on va donner ça gratuitement. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à nous soutenir et pour avoir nos conseils pour débuter sur YouTube.
Notre Tipeee est toujours ouvert également, sans autre contrepartie que d'être cité durant nos épisodes. Donc, un grand cœur sur les irréductibles sorciers et sorcières qui nous soutiennent là-bas aussi. Merci à Corsetilou, Mugiwara, Julien Bédé, Lucie, Inni, Chloé, Poki Pims, Virginie, Yon, Camille, Nala, Bispac, Louison, Kimi Duck, Aurélien, Kali, Miss Bookin et Pamela.
Bon, Brian, j'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie.
Grave, c'était génial. Franchement, merci à vous deux pour l'invitation et pour tout ce que vous faites pour le fandom Harry Potter. Le podcast chaleureux, vous êtes adorables et c'était trop bien. Je suis trop content. Pourtant, c'est un chapitre qui me parlait pas plus que ça, mais on a passé un super moment.
Bah ouais, c'est vrai. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'on va dire et tout. J'ai rien à dire sur ce chapitre.
Ah, moi, j'ai plus trop ce problème, comme je disais. Avant, c'est vrai que.
Mais t'as jamais eu ce problème. Quand
on
a...
par exemple, quand on avait des invités spéciaux, comme ici, on se disait, ah ouais, mais c'est quand même un peu galère de proposer ce chapitre parce qu'il se passe pas grand chose. Et au final, on a toujours des trucs à dire. Au final, c'est toujours un bon moment. Donc, oui, par contre, c'est vrai que j'ai toujours des choses à dire. Ça, c'est vrai.
Serre d'aigle.
Ça me va bien à la fin de podcast. Qu'est-ce que je suis bavard. Allez, on se retrouve alors soit en after show sur Patreon avec Brian parce qu'on va continuer à papoter un petit peu. Puis on va parler un peu plus de ce que tu fais, Brian, sur YouTube, etc. D'avoir ton expertise parce qu'on plaisante, mais tu es un expert du YouTube Harry Potter et donc ça nous intéresse d'avoir ton témoignage. Et si vous n'êtes pas sur Patreon, on se retrouve pour le prochain chapitre qui sera bien entendu le numéro 11 de la Coupe de Feu et qui s'intitulera
À bord du Poudlard Express. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye.
Salut.
Bye.
Bye.